Pour que nature vive.
Pour que nature
vive. Pour que nature vive.
Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète.
Le vivant et notre planète.
Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. Comment la génétique peut-elle nous raconter la vie des cétacés ? Avec Jean-Luc Jung.
Dans un épisode précédent avec Evelyne Ayer, nous avons appris qu'il existe une coévolution gène et culture chez l'homme. Se pourrait-il qu'il en soit de même chez les cétacés ? Pour le savoir, nous allons demander au spécialiste Jean-Luc Jung, vous êtes chef de la station marine de Dinard, chercheur au sein de l'Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors, la vie sociale des mammifères marins, elle semble varier selon les espèces. Est-ce que vous pourriez nous raconter en quoi les sociétés de baleines, de cachalots, d'orques ou encore de dauphins diffèrent-elles ?
C'est extraordinairement impressionnant de regarder les organisations sociales des cétacés et qu'on est tout juste en train de commencer à comprendre et de décrypter. Ça fait des années qu'on les étudie, même les baleiniers avaient déjà des connaissances assez approfondies, mais on a accumulé des données au fur et à mesure des années et maintenant on arrive petit à petit à commencer à percer certains mystères, mais on est loin d'avoir tout compris. Alors quand on compare l'organisation sociale des cétacés, donc on a des espèces qui forment des groupes sociaux très stables, où très souvent la place des femelles est prépondérante, hein, ce sont souvent des sociétés matriarcales, c'est-à-dire formées d'une lignée maternelle, hein, on a les arrière-grand-mères, les grand-mères, les mères, les filles. Donc d'une espèce à l'autre, on a des grandes variations de formation des groupes. Alors les cachalots, par exemple, forment des groupes extrêmement stables, mais qui ne regroupent que les femelles adultes et les enfants, les jeunes. Femelles et mâles. Mais les mâles, dès qu'ils ont atteint l'adolescence, alors 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils quittent les groupes où ils sont nés. Donc ces groupes stables formés des femelles et des jeunes, on les trouve dans les zones tropicales, subtropicales, hein, dans les régions où l'eau est plutôt chaude. Et les jeunes mâles, lorsqu'ils ont atteint l'adolescence, eux vont partir et vont rejoindre des régions polaires, subpolaires, où la nourriture sera plus abondante. Alors ça, c'est le fameux Moby Dick, hein, c'est le cachalot, le monstre, hein, qui en réalité a une vie sociale pas si solitaire que ça, et a une vie sociale très importante. Alors à l'opposé, on a des baleines à bosse, chez qui il n'y a pas de groupes sociaux. Ou peut-être qu'il y en a, mais qu'on ne les connaît pas encore. Mais en tout cas, le groupe social le plus stable qu'on trouve chez les baleines à bosse, c'est le couple mère-baleineau. Les baleines à bosse sont une espèce migratrice, qui migrent entre des zones d'alimentation qu'elles fréquentent en été, qui sont des zones subpolaires souvent, et puis des zones de reproduction qui sont des zones tropicales, subtropicales, qu'elles fréquentent en hiver. Et le couple mère-baleineau dure un an à peu près, hein, entre la mise bas et puis la première migration. Alors les dauphins. Les dauphins forment des sociétés qui ressemblent aux sociétés humaines de chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire qu'on a des tout petits groupes, 2-3 individus, qui sont très liés les uns aux autres, qui sont très souvent ensemble. Et ces groupes eux-mêmes se retrouvent en plus grands groupes lorsqu'il y en a besoin pour chasser, pour dormir, se protéger ou autre. Et puis ensuite se redissocient. Ce sont des sociétés de fission-fusion comme certaines sociétés humaines.
Alors, il y a la question de savoir s'il existe une coévolution génétique et culturelle chez les cétacés, pour expliquer le comportement de certains groupes sociaux que vous venez de présenter. Est-ce que la transmission matriarcale des baleines à bosse, c'est une bonne piste de réponse ?
Oui, c'est une bonne piste de réponse. On touche là du doigt l'un des aspects, des compréhensions récentes, donc qui me semblent les plus intéressantes actuellement dans l'étude des grands mammifères marins. Tout ça. On va commencer, si vous en êtes d'accord, à définir la culture chez les animaux, lorsqu'on a des savoirs, des comportements qui sont l'apanage d'un groupe, hein, d'une communauté, d'individus au sein d'une espèce, pas de toute l'espèce, et que ces savoirs ou ces comportements sont appris entre congénères. Alors ça peut être d'une génération à l'autre, ça peut être les parents, hein, qui apprennent aux jeunes, mais ça peut être aussi entre des adultes ou des jeunes non apparentés dans un groupe, hein, social. Alors cette culture prépondérante chez l'homme, c'est même l'un des moteurs de l'évolution de l'espèce humaine. Cette coévolution, donc le fait que la culture influe sur l'évolution dans une espèce n'avait pas été mis en évidence chez des espèces animales, même des espèces qui possèdent des savoirs culturels extrêmement forts, hein, je pense aux primates, aux éléphants ou d'autres espèces. Hein. Et on a récemment mis en évidence donc ces phénomènes de coévolution gène-culture chez des cétacés, Les baleines à bosse donc, sont des animaux qui font des migrations annuelles entre des zones de reproduction et des zones d'alimentation. Le groupe social le plus stable, donc, c'est la mère et le baleineau. Et donc, la mère accompagne le baleineau sur la voie migratoire pendant la première année. Hein. Donc, le baleineau est né sur une zone de reproduction et donc la mère va l'accompagner jusqu'à la zone d'alimentation et retour. Et c'est en général à ce moment-là que la séparation entre les deux se passe. Donc on a ici la mémoire du lieu de ces deux sites d'alimentation et de reproduction. Cette mémoire est une connaissance culturelle. Et elle est transmise par la mère au baleineau. On a vraiment l'exemple d'une connaissance culturelle. Et en même temps, la mère transmet à son jeune, toujours, son ADN mitochondrial. Alors, on fait une toute petite parenthèse de génétique, mais qui ne va pas être trop longue.
Oui, on définit ADN mitochondrial.
On a donc dans nos cellules notre ADN nucléaire qui est situé dans le noyau, c'est notre encyclopédie en 46 volumes chez l'homme, et qui est hérité du père et de la mère, à quantité égale. C'est la source du brassage génétique. Et toujours dans nos cellules, on a des organites qui s'appellent les mitochondries, qui sont extrêmement importants. C'est elles qui sont responsables de la production de l'énergie quand on a mangé notre petit déjeuner, hein, qui transforment les tartines en énergie pour nos cellules. Donc ces mitochondries, elles sont universelles dans les cellules eucaryotes. Et elles contiennent aussi une petite molécule d'ADN, mais alors de petite taille par rapport à l'ADN nucléaire, hein, est vraiment localisée dans ces mitochondries. Et une spécificité, c'est que cet ADN mitochondrial n'est pas issu du brassage génétique, il n'est transmis que par la mère. Et donc, dans une même lignée maternelle, donc entre grand-mère, mère, enfant, vous aurez le même ADN mitochondrial, quels que soient les pères. Alors, qu'est-ce que ça a à voir cet ADN mitochondrial avec nos baleines à bosse et puis nos voies de migration ? Eh bien, par définition, donc la mère qui transmet son ADN mitochondrial à son petit, elle lui apprendra aussi le chemin de migration jusqu'à la destination de la zone d'alimentation. Et donc, on a une co-transmission là, de l'ADN mitochondrial et de la connaissance culturelle qui est le chemin migratoire. Alors, on a travaillé avec des collègues russes et anglais il y a quelques années. Ces collègues passaient beaucoup de temps en mer de Bering sur le terrain à observer les orques et les baleines à bosse. Une chose les avait étonnés. Donc, on est dans une même zone d'alimentation hein, en mer de Bering. Et ils voyaient deux sites, donc deux endroits précis, deux îles, distantes de 500 km à peu près. Et donc, ils voyaient que dans ces deux sites, c'était des sites d'alimentation qui attiraient des baleines à bosse, mais il semblait ne jamais y avoir d'échange entre les deux sites. C'est-à-dire qu'ils n'identifiaient jamais les mêmes baleines d'un site à l'autre. Alors que pourtant, les deux sites n'étaient distants que de 500 km. Donc, distance tout à fait compatible avec un déplacement pour une baleine à bosse. Alors, on a recherché d'éventuelles différences génétiques aussi entre les baleines à bosse de ces deux sites. Et en effet, on a trouvé une différence au niveau de l'ADN mitochondrial. On n'avait pas les mêmes répartitions d'ADN mitochondrial entre les deux sites. Et la manière dont on a expliqué ça, c'est qu'au fur et à mesure des générations, les mères emmenant leur baleineau dans le site d'alimentation, cela crée la fidélité au site d'alimentation. Et la mère aussi et celle qui transmet donc l'ADN mitochondrial au petit. Et donc voilà un exemple de coévolution gène-culture où la culture, la connaissance du site d'alimentation entraîne une diversité génétique particulière et donc une répartition différente des ADN mitochondriaux chez les baleines à bosse des deux sites d'alimentation.
Alors, puisque les cétacés rejoignent les humains dans cette très rare coévolution gène-culture, je vais humaniser les cétacés dans nos analogies. Est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que certains orques vivent une histoire d'amour aussi tragique et même impossible que les célèbres Roméo et Juliette ?
Alors là, je vais vous parler de résultats qu'ont obtenus des collègues. Alors, pourquoi Roméo et Juliette ? C'est pour moi un très bel exemple de barrière au flux de gènes lié à la culture. Hein. On a deux familles, les Capulet, les Montaigu, qui vivent dans la même ville, au même moment. Donc, tout est là pour que les individus puissent se rencontrer, échanger, et que deux individus du même âge puissent se reproduire si les signaux chimiques d'attrait sont présents. C'est le cas de Roméo et Juliette. Et pourtant, ils ne peuvent pas se reproduire à cause d'une barrière culturelle, parce qu'on a deux familles et que ces deux familles ne veulent pas qu'il y ait de couples dont l'un proviendrait d'une famille et l'autre de l'autre. Voilà, une barrière au flux de gènes. Et c'est un peu ce qui se passe chez les orques, je trouve. C'est une belle analogie. Chez les orques, on a ce qu'on appelle des écotypes. Donc ces écotypes, c'est des groupes très différents au sein des espèces. Quand on arrive avec la notion d'écotype, ça veut dire qu'au sein des espèces, on a des groupes d'individus qui sont différents génétiquement, qui sont différents en matière de comportement, souvent de morphologie, c'est le cas ici. Et donc ces écotypes d'orques, par exemple, sont spécialisés dans des chasses différentes et ne mangent pas la même chose. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une barrière au flux de gènes entre ces écotypes et que les orques d'un groupe à l'autre ne se reproduisent pas, que c'est ce qui a amené aussi la formation de ces écotypes. C'est-à-dire qu'on a une stratégie de chasse qui a été acquise par quelques individus. On sait maintenant que ces écotypes sont d'origine de quelques centaines de milliers d'années, pas plus, et qu'ils viennent de quelques individus. On arrive à retracer ça dans les signatures génétiques, dans l'analyse des génomes. Donc on sait que quelques individus sont à l'origine de ces écotypes, qu'ils ont acquis à un moment une stratégie de chasse particulière, qui leur a conféré un avantage sélectif aux individus qui étaient capables de l'utiliser, et que petit à petit des barrières culturelles se sont mises en place et font qu'il n'y a plus de reproduction entre les individus, alors que pourtant ces groupes qui appartiennent à différents écotypes peuvent occuper les mêmes espaces et appartiennent à la même espèce.
Pour terminer, est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que des dauphins en viennent à pratiquer une forme d'autostop génétique ?
Les grands dauphins, alors encore une espèce étonnante, là aussi on a des écotypes plutôt côtiers, des écotypes plutôt pélagiques, on en a en France métropolitaine, on en a en Guadeloupe aussi, de ces grands dauphins avec ces écotypes très marqués. Et il y a une compréhension très très étonnante qui a été faite par des collègues en Australie, il y a quelques années. Donc il y a un endroit qui s'appelle la baie Shark, où notamment on a des grands dauphins qui sont très présents, qui sont des dauphins résidents. Et ils se nourrissent notamment de poissons plats qui se cachent sur un sol qui est très inégal, très coupant parce qu'il y a des restes de coraux, etc. Et donc aller les dénicher, c'est pas évident. Alors, certains dauphins ont appris à utiliser des outils. Donc ils utilisent des éponges, ils prennent l'éponge sur le bout du rostre et puis ils grattent le fond avec l'éponge, comme ça ils se coupent pas, ils arrivent à récupérer comme ça les poissons plats qui sont dérangés et ils trouvent leur nourriture ainsi. Et bien de nouveau on revient à cette co-transmission, donc c'est étonnant, mais dans tous les grands dauphins qui sont présents au même endroit, seuls certains savent utiliser cet outil et d'autres ne le font pas. C'est une culture liée à un groupe au sein d'une espèce, dans un même endroit. Et donc ce qui a été démontré il y a quelques années maintenant, c'est que les dauphins qui savaient utiliser les éponges comme outil, avaient tous le même ADN mitochondrial et donc appartenaient tous à la même lignée maternelle. Et donc de nouveau, on se retrouve dans un cas où on a la mère qui transmet son ADN mitochondrial, ça c'est biologique, et qui en même temps apprend aux jeunes à utiliser l'outil. Et donc on a une co-transmission de l'ADN mitochondrial et de la capacité à utiliser l'outil dans ce groupe de grands dauphins. Alors on parle d'autostop génétique, ouais. Vous voyez, l'ADN mitochondrial fait de l'autostop pour être co-transmis avec la capacité d'utiliser les outils.
Écoutez, c'était vraiment fascinant, je me garderai bien d'en tirer des conclusions politiques, mais ce que j'ai entendu dans votre propos, c'est que dans le vivant marin, les sociétés matriarcales sont infiniment plus stables, apaisées, et c'est peut-être un exemple à suivre. Merci beaucoup Jean-Luc Jung.
Dans cet épisode, vous venez d'écouter Jean-Luc Jung, chef de la station marine de Dinard, chercheur au sein de l'Institut de Systématique Évolution Biodiversité et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et Création Collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la Financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée « Pour que nature vive », qui a inspiré le titre de ce podcast.